Chapitre 42. 23 décembre 2017. L'établissement Georges Perec est vide. Les salles de classe fermées. Seul Romain Grimaldi travaille à son bureau. Il est passé comme ça. Parce qu'il est seul. Parce qu'il s'emmerde un peu chez lui. Promener Bob, une fois, deux fois, c'est sympa, mais ça caille dehors. Il a placé un petit radiateur à ses pieds. N'a pas retiré son manteau. Il lit le courrier, répond à quelques mails. Les collégiens doivent encore traîner au lit, attendant leurs cadeaux en regardant la télé. Les gens sont en famille. Celle de Romain est en Australie. Hier soir, il a proposé à Nina de se joindre à lui pour le réveillon de Noël. Sans réfléchir, elle a répondu oui. Il ne s'y attendait pas. Nina. Quelques coups de téléphone, dont un aux archives départementales, de la part d'eux, et Romain a reçu des bribes de son dossier scolaire, comme des lambeaux. Il a lu les notes et les appréciations du bac qui ont survécu au temps. Une élève sérieuse dans toutes les matières. Il a reconstitué le puzzle. Bac avec mention, option art plastique, 17 sur 20. Elle aurait dû faire des études supérieures. Pourquoi est-elle restée ici? Certains dessins de Nina ont été scannés. Des portraits au fusain. Deux garçons, toujours les mêmes, dont elle a croqué les traits de manière saisissante. Doué, incontestablement. Romain, c'est son métier de repérer les bons élèves. C'est ce qu'il a dû ressentir au refuge la première fois qu'il l'a vue. Hier soir, elle a débarqué chez lui. Cela fait 10 jours qu'elle passe sans prévenir. Elle sonne, et quelques minutes après, ils font l'amour. Il ignore pour l'instant si ses intrusions le séduisent ou pas. Ses élèves appellent ça « avoir un crush ». Romain ne connaissait pas cette expression, qui signifie qu'on a une attirance pour quelqu'un. « C'est avoir un coup de cœur, monsieur. Kiffer, quoi ?» Nina est rapide, a quelque chose de brusque dans les mains. Elle ne prend pas le temps. Ses gestes racontent exactement le contraire de ce qu'elle possède dans la voix et le regard. Une profondeur et une douceur. Elle semble abîmée, en méfiance, tendue. Comme si elle se servait dans le lit de Romain et lui rendait l'appareil pour le satisfaire. Pas pour l'aimer. Pourtant, si ce soir elle ne venait pas, le vide serait vertigineux. Étienne ouvre les yeux. Il a du mal à émerger. Quand sa tête lui dicte qu'il est l'heure de se lever, quelque chose en lui refuse, son corps l'en empêche. Envie de replonger dans un sommeil immédiat. Fuir les matins. Fuir les jours. Continuer à rêver un peu. Se réveiller, c'est rentrer chez soi, et lui n'en a pas la force. Marie Castille n'est plus dans le lit depuis longtemps. Lumière grise d'hiver à l'extérieur. Étienne entend des voix en bas. Celle des parents d'abord, puis le timbre de Valentin, plus aigu, qui monte jusqu'à lui. Son fils. Dieu qu'il aime son garçon. Jamais il ne se serait cru capable d'aimer un être plus que lui-même. Une odeur de café, le pain grillé. De repas de midi. Tout se mélange dans la maison de son enfance. Il jette un coup d'œil au réveil, 11h15. Il faut se lever, se laver, s'habiller. Comme d'habitude, Marie Castille doit être en train de raconter à qui veut l'entendre qu'il avait besoin de repos, qu'il récupère, qu'il faut le laisser dormir, le pauvre. Il repense à Nina, le choc quand il l'a vue hier soir. Elle n'a pas changé. Son grain de peau, peut-être. Moins beau qu'avant. Avant, sa peau, c'était du satin, de la poudre de riz, du sable brun. Il repense à ce qu'elle lui a dit. Valentin sait. Mais comment ? Étienne n'en a parlé à personne. Et il a laissé tous les résultats de ses examens médicaux au bureau, dans un tiroir fermé à double tour. Il n'a jamais ramené sa maladie à la maison. Quand Marie Castille va savoir, elle va flipper. Et Étienne veut vivre tout cela loin du tumulte. Il lui paraît insurmontable d'imaginer le regard des autres changer quand il se posera sur lui. L'empathie, la pitié, impossible. Son métier n'est fait que de cela, de victime. Ne jamais se retrouver de l'autre côté. Seule Louise sait. Mais Louise se tait. Louise s'est toujours tue. Il en est au stade 3, ce qui signifie localement avancé. Traduction, il a des métastases partout. Une opération pour stopper l'étendue des dégâts, puis une première chimio, un protocole de 6 mois, pour voir comment se comporte la tumeur, si le crabe se carapate devant l'adversaire. Une séance toutes les 2 semaines, en ambulatoire, un cathéter au bout du bras qui lui injectera le poison. Il pourra lire le journal s'il le souhaite, on l'a déjà prévenu. Pendant la séance, rien ne vous empêchera de regarder un film ou faire ce que vous aimez. Mais lui, ce qu'il aime, c'est nager à contre-courant, surfer, jouer de la gratte, emmener son fils au collège, le regarder en douce rigoler avec ses copains, boire un noir au comptoir, près du commissariat, l'adrénaline du flagrant délit, serrer un criminel, surprendre Marie Castille qui mange un esquimau en se cachant pour ne pas le tenter, l'odeur de sa crème de nuit quand elle se couche près de lui, écouter de la musique. Il n'ira pas se faire soigner. Il va partir crever au grand air, au bord de la mer, plutôt que traîner des mois à se déglinguer physiquement, jusqu'à ce que sa femme et son fils se rappellent davantage le numéro de sa chambre d'hosto que les traits de son visage. Putain de cadeau de Noël, siffle-t-elle entre ses dents. Un chien attaché devant le refuge, 3 centimètres de corde, terrorisé quand Nina s'approche de lui. Il semble honteux d'avoir été déposé là. Depuis quelle heure s'étrangle-t-il? Jeune, à peine 1 an, trempé, affamé, la totale. Un genre de berger des Pyrénées croisé avec la malchance. Nina en pleurerait. Ras-le-bol. Combien de temps va-t-elle tenir? Et tous ces cons qui vont s'offrir des chiots pour Noël. Qui va les récupérer fin juillet quand ils seront plus tout mignons? C'est ma pomme. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je largue mon kleps. Et peut-être mes gosses et ma femme s'ils me font trop chier. La vie est trop courte, il faut en profiter. Et toi, pauvre fille, tu récupères la merde des autres. Le détacher, le rentrer dans son bureau, l'essuyer, le rassurer. Il pue, il tremble. Elle regarde l'état de sa peau. Parasite, pas parasite. Marque, pas marque. Identifié, pas identifié. Elle lui donne de l'eau et des croquettes. Il se jette dessus. Nina reconnaît le moteur de la voiture de Simone. Cela la soulage. Pas le courage d'affronter cet abandon toute seule ce matin. Simone dépose une boîte de chocolat sur le bureau de Nina en disant « C'est pour tout le monde !» Puis baisse les yeux, les écarquille et lâche. « Mince alors ! D'où il vient celui-là encore ?» Cadeau de Noël, attaché au portail. « Où on va le mettre ?» Bonne question. On va faire des photos et le signaler aux agents de ville. Ils dorment encore à cette heure-ci, les agents de ville. « Je sais. Tu es venue à pied ?»« Oui. Tu es courageuse. Moins que vous, Simone. » Simone ne répond pas. Elle désigne le chien transi de froid qui se réchauffe sous sa couverture en les observant toutes les deux, comme un accusé qui attend son verdict. Comment on va l'appeler? Noël? Jésus? Marie? Simone le caresse. Il a la couleur d'un cannelé, dit-elle. Va pour cannelé, décide Nina. Après avoir promené, nettoyé et soigné tous les autres, il est déjà 15 heures. 2 bénévoles les ont rejointes pour les sorties. Par temps froid, comme les bâtiments sont vieux, et bien qu'elle n'en ait pas le droit pour d'obscures raisons sanitaires, Nina met de la paille dans chaque box. Elle ajoute aussi une couverture dans les paniers et à l'intérieur des niches. Durant l'hiver, Simone fait cuire des déchets que le boucher lui met de côté. Nina déteste cette odeur d'abat que Simone fait revenir dans de grandes bassines. Mais cette pitance réchauffe les bêtes. Avant de partir, Simone fait des portraits de cannelés et Nina les poste sur les réseaux sociaux. Trouvé ce matin attaché aux grilles du refuge, mâle, environ 1 an, non identifié. Si vous le reconnaissez, merci de nous contacter. Ce genre d'annonce, c'est comme pisser dans un violon. Ce qu'elle espère, c'est que quelqu'un prenne cannelé en pitié. Les adoptions, c'est comme les disparitions. Plus le temps passe, et moins on a de chance d'avoir de nouvelles. La voiture du refuge n'est plus garée devant chez moi. Nina a dû venir la récupérer très tôt. Je ne l'ai pas entendue. Je cherche un peu partout un mot qu'elle m'aurait laissé, dans la boîte aux lettres, sous la porte, ou dans le panier de Nicolas. N'importe quoi, juste un « salut, à bientôt, je t'embrasse, joyeux Noël, je repasserai un de ces 4, prends soin de toi, j'ai été contente de te voir. » Oui, n'importe quoi. J'ai la tête à l'envers. Je rédige un encart pour informer les lecteurs du journal que les recherches à l'aide du sonar se sont définitivement arrêtées au lac de la Forêt. Aucun autre corps n'a été découvert dans le périmètre où la voiture a été repêchée. Ni bijoux, ni métaux, ni armes. Il semble à présent certain qu'il n'y a qu'une victime, celle retrouvée dans l'amas de tôle. Seul indice qui m'a été confirmé par une connaissance, un gendarme de la Comelle. Le corps était à l'arrière du véhicule et non à l'avant. Suicide, accident, meurtre, tout n'est que supposition. Seul le temps permettra de savoir. La nuit dernière, j'ai rêvé de Clotilde Marais. Elle était près de moi, assise sur mon lit. Un cauchemar. Je me suis réveillée en nage. Je crois que j'ai crié dans mon sommeil. Virginie, c'est quand même incroyable que ce soit toi qui parles de mon affaire dans le journal. Elle se moquait de moi, parlait trop fort, et je lui répondais en tremblant. Mais Clotilde, ce n'est pas toi dans cette voiture. Elle me souriait, comme elle me souriait lorsque nous nous croisions dans les couloirs du lycée. Elle souriait au mur derrière moi, et ce mur, c'était Étienne. Je me retournais, Étienne était là, il avait 17 ans, et pleurait des larmes de sang.